Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jacqueline Mourot. Bonjour, Jacqueline Mourot. Je ne sais
Bonjour à
pas
vous.
si je dois dire la Morbihannaise ou la Guérandaise, Jacqueline Mourot, mais vous êtes
Ah bien,
entre les deux.
les deux, parce que Guérande, c'est ma ville de cœur.
Voilà, vous êtes née à Guérande, hein, Jacqueline
Tout à
Mourot.
fait.
Voilà.
Tout à fait.
Jacqueline Mourot, donc figure historique des Gilets jaunes, vous êtes engagée aux côtés d'Éric Zemmour, hein, vous avez été en vedette lors du grand meeting de Villepinte d'Éric Zemmour. On va parler des Gilets jaunes, du peuple, voilà, de cette France qui souffre en ce moment, de la classe moyenne. C'est pas la France d'en bas, hein, c'est la classe moyenne, faut pas se tromper maintenant. Elle a dégringolé. Mais
Tout à fait.
d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers Éric Zemmour? Et pas aller vers, je sais pas, les LR, La Salle, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, ou peu importe. Voilà.
Écoutez, je crois que ce que je partage le plus avec Éric Zemmour, c'est l'amour de la France. C'est notre pays. C'est intrinsèquement, on est intrinsèquement attaché à nos racines. Tout ce qu'on est en train de voir qu'Emmanuel Macron est en train de détruire, c'est-à-dire les racines, la famille, tout ce qui fait la société. Donc évidemment, Éric Zemmour défend tout ça. Donc naturellement, je me suis tournée vers lui. Je l'ai écouté pendant des mois. On s'est rencontrés 3 fois sur Paris avant pour voir exactement si on avait vraiment des atomes crochus. Et je pense que c'est celui qui parle le mieux de la France actuellement et qui est le plus à même de la défendre.
On dit souvent que le point faible d'Éric Zemmour, c'est de ne pas parler à la France des provinces, la France d'en bas. On l'a souvent entendu dire par les commentateurs. Alors justement, votre ralliement aux côtés d'Éric Zemmour est sans doute important parce que vous êtes une personne qui incarnait cette France de la classe moyenne de province, finalement. Et je le dis sans que ça soit péjoratif, hein, Jacqueline Mourot.
Bien sûr, je comprends. Alors moi, j'espère apporter à Éric Zemmour tout le côté de la France populaire, c'est-à-dire la France qu'on n'entend jamais et qui est perpétuellement méprisée par les énarques parisiens qui n'y comprennent rien parce qu'ils pensent qu'en dehors de Paris, la France n'existe pas. Alors que moi, je vais tenter le plus possible en tous les cas d'apporter à Éric Zemmour tout le côté de la France des territoires et des terroirs. Défendre nos langues régionales, enfin, tout ça et le fait, comme je lui ai dit une fois, je lui ai dit dans un rendez-vous, vous savez qu'en France, il y a encore des gens qui vivent sur de la terre battue. Et ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas. Eh bien, pourtant, si. Donc, ça veut bien dire qu'il faut penser à tous les Français. Personne n'est à négliger.
Ces Français sont dans le collimateur parce que de nos gouvernants, et je vais être beaucoup plus neutre, je ne vais pas faire de politique politicienne, je vais dire des hauts technocrates depuis plusieurs années. Donc je ne transfère pas simplement la responsabilité sur le régime d'Emmanuel Macron ou de sa majorité, je parle bien de la haute technostructure qui, pendant des décennies, a méprise ces Français. L'incarnation de ce mépris, Jacqueline Mourot, c'est cette phrase de la ministre du Logement qui a dit que c'était un non-sens que de vivre dans une maison individuelle. Vous l'avez entendu, qu'en
Oui.
pensez-vous?
Bah, écoutez, c'est simple. Moi, ce que je crois globalement, c'est que les énarques sont en train de comprendre qu'ils vont tomber et ils se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent, donc tout ce qu'ils peuvent, pardon, excusez-moi. Et principalement, leur axe de démolition, c'est nous. Il faut absolument nous empêcher de vivre correctement et de vivre libre. Parce que moi je suis persuadée qu'on va assister à la chute des énarques. Là, tous ceux qui sont dans les bureaux actuellement, et je dirais c'est pas méprisant ce que je veux dire, mais il y en a beaucoup qui servent à rien quand on voit le nombre de gras de papier qu'il y a. Alors que dans la plupart du temps, en 1 heure, on peut régler un problème que eux vont mettre 3 mois à régler. Évidemment, il faut bien qu'ils justifient leur salaire mirobolant. Mais en attendant, on va assister à leur chute. Alors, évidemment, ils ne sont pas d'accord. Et pour montrer leur désaccord, eh bien, il faut que, comme dirait le président, qu'ils nous emmerdent.
Quand vous parlez des grades papier, vous ne parlez pas des petits fonctionnaires dans des mairies, etc. Vous parlez de ces énarques à 6 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. C'est ça, hein, ceux qui sont dans votre viseur. On est d'accord, Jacqueline, là-dessus.
Tout à fait. Je parle même quand je vois... Bon, on ne peut pas le qualifier de grade papier, mais quand je vois, par exemple, que le gouverneur de la Banque de France vit gracieusement avec nos deniers à 39 000 euros par mois, là, je trouve quand même qu'il y a de l'abus. Il y a de l'abus. On ne peut pas demander à des personnes en France de vivre avec 1 000 balles ou 1 200 balles quand ce n'est pas 350 euros pour un agriculteur, quand il ne se suicide pas, évidemment. Et pendant que, à l'autre bout de la chaîne, on a des gens qui vivent sur le dos de la bête. Mais la bête, elle est complètement amaigrie, elle est affaiblie. Nous n'avons plus rien pour tous ces gens-là. Donc, évidemment que ça ne leur plaît pas que nous ne sommes plus d'accord aujourd'hui. Le désaccord est arrivé par les Gilets jaunes, par et grâce aux Gilets jaunes. Là que tout a démarré.
Ouais, mais vous incarnez justement une partie de ces gilets jaunes, on va dire les gilets jaunes historiques, hein, pas les gilets jaunes d'extrême gauche qu'on a entendu, le canal historique. Mais quand on parle à beaucoup de gens de classe moyenne ou de la petite bourgeoisie des gilets jaunes, il y a une forme de mépris. De mépris parce que pour eux, commerçants, parfois artisans, le gilet jaune, c'est celui qui a bloqué les samedis après-midi les centres commerciaux, c'est celui qui a crevé des pneus ou casser des voitures. L'amalgame a vite été fait. Hein, voilà.
C'est-à-dire que l'amalgame a été fait parce que les médias s'en sont servis, évidemment. Mais au-delà de... Évidemment, moi aussi, je suis contre toutes les violences qu'il y a eu, contre les attaques qu'il y a eu. Bien entendu, on est tous contre ça. Mais en attendant, les Gilets jaunes, c'était un immense cri de détresse. Et ce cri de détresse a été étouffé par le Covid. Ça a bien arrangé Emmanuel Macron, parce que je suis certaine qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le Covid, les Gilets jaunes, ils seraient encore dans la rue.
Vous défendez cette France populaire, Jacqueline Mourot. On va en parler. Mais d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. S'il n'y avait pas eu le Covid, les Gilets jaunes seraient encore dans la rue. Est-ce qu'ils ne sont pas encore en train de revenir, cette fois-ci, sous la forme des manifestations du samedi, où on voit pêle-mêle des anciens gilets jaunes, les antipasses
C'est-à-dire que...
Je dis souvent les antipasses, et je corrige souvent mes invités qui parlent d'antivax, parce que j'ai été voir ces manifestations, j'ai été voir ce que je veux toujours voir, j'ai écouté, j'ai pas entendu forcément... Il y a des antivax, mais il y a essentiellement des antipasses, et c'est pas pareil.
Bien sûr, et moi je comprends pourquoi tout le monde est dans la rue, puisque je suis aussi antipasse. Je suis contre la restriction de nos libertés, parce que au-delà de cette instauration de passe sanitaire ou passe vaccinale, il faut bien que les gens comprennent que ça ne s'arrêtera pas là. Le prochain passe, ça va être le passe carbone. Si vous avez trop consommé de carbone dans l'année, vous n'aurez plus le droit de sortir de chez vous. Si ensuite, nous allons avoir... ça va se réduire à un pass citoyen, en gros, quelque chose comme ça. Un pass citoyen, quand vous allez vouloir aller retirer de l'argent dans un DAB, dans un distributeur automatique, si vous n'avez pas payé votre dernier PV, vous n'aurez pas votre argent. Parce qu'en plus, le stade suivant, c'est aussi la disparition de l'argent liquide.
Oui, mais ça, quand on le dit, soit les gens sont traités de complotistes, bon, mais soit aussi...
Vous savez, oui. Les complotistes ont juste eu le tort d'avoir raison avant les autres. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup plus de discernement que les... Plus tôt, c'est tout. Mais je pense, moi je n'en veux pas du tout à ceux qui pourraient me traiter de complotiste, ou parce que... avec le Covid a été installée une peur monumentale. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, si tu ne te fais pas vacciner, tu vas mourir. Aujourd'hui, par bonheur, tout le monde se rend compte quand même que même vacciné, eh bien, l'efficacité des vaccins est à remettre en cause aujourd'hui, puisque les deux doses sont considérées... Sauf pour les formes graves. Mais on sait très bien que le Covid a touché des personnes de plus de 80 ans avec comorbidité. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la communication gouvernementale ne correspond plus avec la réalité. Les gens sont en train de réaliser qu'on leur a menti. Ça fait 2 ans bientôt qu'ils nous mentent en permanence. Donc, obligatoirement, les antipasses qui sont dans la rue, moi, je les soutiens. Moi, je les soutiens de toute façon. Ils ont raison parce que ça ne s'arrêtera pas là. Et je peux vous garantir que si on ne met pas le holà au pass vaccinal, eh bien, c'est le crédit social à la chinoise qui nous attend. Le but, si vous voulez, n'est plus sanitaire aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que Omicron est l'équivalent d'un rhume. Il est très contagieux, mais pas du tout létal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aussi nous emmerder comme ça pour la grippe l'année prochaine ou pour un rhume. Il va falloir qu'on montre des pinces, qu'on montre pattes blanches partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Qui veut de cette société aujourd'hui? Personne.
C'est ce qu'on appelle la dictature des honnêtes gens, les gens qui vous répètent « je n'ai rien à me reprocher ».
Voilà,
et avec cette phrase « je n'ai rien à me reprocher », ça clôt toute conversation. Quoi. Donc,
oui, mais en attendant, à propos du Covid et la persécution qui est en train de s'exercer contre les personnes qui sont non vaccinées, ça va donner lieu à toutes les dérives. Moi, j'aimerais, alors, je vous le confie bien volontiers parce que je n'ai rien à cacher, comme vous dites, je ne suis pas vaccinée à ce jour.
Je vous pose pas la question, ça ne me regarde pas.
Je ne pose jamais
des questions de santé à mes invités.
Je n'ai aucun souci à
sauf si le thème du débat, c'est la santé, hein, évidemment.
Voilà.
Hein. Mais sinon, je ne pose jamais de questions de santé.
Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment je peux transmettre une maladie que je n'ai pas à quelqu'un qui est vacciné contre elle. Alors, je suis punie, et comme tous les autres non vaccinés, nous sommes punis d'être en bonne santé. Mais vous rendez compte l'inversion des valeurs qu'on a actuellement en France, alors qu'il fallait le tester, isoler, protéger d'Emmanuel Macron, aujourd'hui c'est plutôt persécuter, maltraiter et emmerder.
Jacqueline Moureau, on parle du crédit social à la chinoise. J'ai eu une conversation la semaine dernière avec un monsieur qui s'appelle Loïc Hervé. Et Loïc Hervé, c'est pas un complotiste d'extrême droite, loin de là. Il est sénateur centriste, hein, voilà, Union centriste de la Haute-Savoie, et il est membre de la CNIL. Il m'expliquait que le combat des libertés publiques, c'est toujours un combat toujours minoritaire, et qu'il y a de très sérieux risques, certains sénateurs, comme certains députés, d'ailleurs, de tous bords politiques, tentent d'alerter, disent, et lui, il est à la CNIL, en plus, il représente le Sénat à la CNIL, il dit, on va vraiment vers un crédit social à la chinoise. Donc, il est important là-dessus d'être vigilant.
Aujourd'hui, Le seul combat, je dirais, qui va se passer dans les urnes et qui est absolument fondamental, c'est la défense de nos libertés. Rien ne peut être mis au-dessus du combat pour nos libertés. Il y a quand même des gens, on a perdu tout le... j'ai quand même 54 ans. On a perdu des gens dans les guerres qui défendaient nos libertés. Et aujourd'hui, on est en train de se laisser écraser par un gouvernement qui est en train de nous reprendre toutes ces libertés. Mais battons-nous aux armes, citoyens.
On va parler d'un autre sujet pour poursuivre votre engagement sur les Gilets jaunes, Jacqueline Moureau, cet engagement historique sur cette France d'en bas. Alors, quand on dit France d'en bas, il y a toujours un peu de mépris de la part des journalistes pour dire un peu ce sont les ploucs, quoi. Hein, voilà.
Oui, bien sûr.
On s'en fout, voilà. Mais cette classe, il y a aussi la classe moyenne. La classe moyenne est en train de rejoindre la France d'en bas, parce que la France d'en bas d'avant, elle a disparu, elle est complètement paupérisée. Ce sujet du pouvoir d'achat est au cœur de tous les débats, de toutes les réflexions avec cette électricité qui augmente, ce gaz, les matières premières, le prix de l'alimentation. Et on assiste dans le plus grand silence, finalement, au général, à... On va dire que c'est comme un escalier. On était tous dans un escalier, classe moyenne, classe plus haute, CSP+, celui qui gagne 2000 euros, celui qui gagne 4000 euros par mois, celui qui gagne 5000, 8000 euros par mois, etc. Et dans l'indifférence générale, tout le monde reconnaît qu'il descende d'un escalier. Oui. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
on
oui.
descend les d'un gens... escalier. Voilà,
que... ben, les gens se résignent, malheureusement, les gens sont résignés. Et je crois qu'on ne peut pas, enfin moi je ne peux pas me résigner, ce n'est pas possible. On doit continuer de combattre, mais puisque rien ne se passe, je dirais, à être dans la rue, parce que ça, le mandat d'Emmanuel Macron, ça se résume à des manifestations tous les samedis. Hein. On n'a pas de résultat à être dans la rue, ben, eh bien, le résultat, il faut le trouver dans les urnes. C'est impératif. Il faut absolument, entre guillemets, dégager cette caste qui nous gouverne. Parce que déjà, ils ne nous connaissent pas et ils ne nous aiment pas. Il ne faut pas croire qu'Emmanuel Macron, enfin de toute façon, il l'a quand même bien dit avec son interview dans Le Parisien, son but, c'est d'emmerder les non-vaccinés. Mais au travers des non-vaccinés, ça va emmerder tout le monde, passez-moi l'expression. Parce que les vaccinés qui ont deux doses sont considérés comme des non-vaccinés quand ils n'ont pas eu la troisième. Donc, perdre nos libertés, ce n'est pas seulement sur le dos des non-vaccinés, il ne faut pas croire. Hein. L'objectif est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que nous ne sommes, pour eux, nous sommes vraiment, comme dirait Philippe de Villiers, de la crapaudaille. Voilà.
Oui, mais donc, on va si vous répondre que c'est de votre faute. On a ce vaccin pour retrouver une vie normale, empêcher les formes graves. Certes, le vaccin n'est pas totalement, il n'empêche pas la contamination. Voilà, tout le monde le dit maintenant. Mais ça évite de surcharger les urgences. Et ceux qui ne veulent pas jouer le rôle de ce vaccin, eh ben, sont des mauvais citoyens que vous répondez.
Bah non,
à ça.
Sauf que c'est totalement faux cet argumentaire-là aujourd'hui. Si le vaccin était aussi efficace, on est à 91% de la population française vaccinée. 91%, on est pratiquement les meilleurs élèves. Mais regardez, les hôpitaux, ils sont surchargés par des gens vaccinés aussi. Donc, on sait très bien que normalement, c'est une erreur de vacciner en pleine pandémie, puisque aujourd'hui, les vaccinés se contaminent entre eux. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter de monter la population l'une contre l'autre, alors que nous devons faire preuve de solidarité contre cette politique, justement.
Les hôpitaux sont surchargés, essentiellement par des non-vaccinés, vous avez dit par des non-vaccinés aussi. Donc je ne vous corrige pas, parce qu'en langue française, vous avez bien dit aussi, ce qui change beaucoup
oui.
de choses. Hein, voilà. C'est important.
On est à peu près à 50-50, en fait. Hein. On sait, par exemple, qu'en Guadeloupe, les hôpitaux ont reçu des papiers où ils n'ont pas le droit de dire qu'ils ont des vaccinés hospitalisés.
Quel est ce...
Alors,
sur
évidemment,
le...
évidemment la doxa cache la réalité. Donc, il y a un jour, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Qu'ils rendent des comptes, ce n'est pas possible. On ne peut pas, de toute façon, je pense qu'on n'en restera pas là. Parce qu'on ne peut pas maltraiter la population comme ça sans qu'à la fin, on passe à la caisse quand même.
Alors j'aimerais venir sur le plan économique. Hein. Qu'est-ce qui, dans les mesures d'Éric Zemmour sur les classes moyennes, sur cette France gilet jaune que vous représentez, Jacqueline Moreau, quelle est là où une ou deux mesures qui vous semblent être emblématiques?
Emblématique, c'est la participation. Évidemment, la participation aux bénéfices dans les entreprises, parce que ça, c'est emblématique. C'était donc c'était voulu par le général de Gaulle, et ça n'a jamais été mis en place, sauf dans les entreprises qui souhaitaient le faire. Mais aujourd'hui, Éric Zemmour veut le faire dans les entreprises à partir de 11 salariés. Donc, évidemment, ça va changer la donne. Ça va obligatoirement changer la donne. Moi, je pense que ça ne va encore pas assez loin. Mais il y a déjà une amorce, je dirais. On a aussi, il veut faire rembourser par les entreprises 50% des frais de carburant. Donc c'est quand même pas négligeable, parce que le carburant est un poste essentiel pour, enfin surtout nous dans les territoires, enfin, dans nos magnifiques régions, le carburant est un poste essentiel. C'est un bien de première nécessité, le carburant. Parce que sinon, on ne peut pas aller travailler. Quand j'ai des gens ici qui me disent « Eh bien, moi, j'habite à Vannes et je vais travailler à Nantes », il y en a.
Bah, c'est la même chose chez nous, des gens qui sont à Saint-Nazaire, qui vont à Nantes, des gens qui sont à Guérande, qui vont à Nantes aussi. Voilà, c'est la même chose. évidemment, voiture est essentielle.
Bien sûr, donc on a besoin, alors, et puis arrêter cette traque aux conducteurs et aux voitures qui polluent, entre guillemets. Parce que regardez un petit peu comment les décisions gouvernementales sont contre-productives. À partir du 15, logiquement, je ne peux plus prendre le train pour aller à Paris. Bah, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma vieille bagnole qui a 22 ans et je vais aller à Paris en voiture. Donc, il est où le gain carbone là-dedans ? Ben, c'est complètement contre-productif. Donc, et encore heureux que j'ai encore cette vieille voiture de 22 ans. Parce qu'il y a un moment, eh bien, on va me la confisquer puisqu'elle est trop vieille et elle ne plaît pas à Emmanuel Macron.
Ben, faut prendre un taxi, Jacqueline Mourou, comme dirait
Anne Hidalgo. Oh mon Dieu, Anne mais Hidalgo. Je n'ai pas de moyens, cher monsieur.
Vous avez compris hein, que c'était Anne Hidalgo qui avait fait cette réflexion. Hein.
Oh mon Dieu.
C'est bien d'avoir interdit la voiture. Les Parisiens peuvent faire rouler en e-taxi maintenant et c'est très agréable.
Honnêtement, quand on voit l'état de Paris, mais mon Dieu, j'ai mal au cœur à chaque fois que je vais là-bas. Mais enfin, la capitale la plus belle du monde, bon, je fais un peu de chauvinisme, mais c'est une des capitales les plus belles du monde, mais Hidalgo l'a saccagée. Elle a massacré Paris, Hidalgo. Et elle est en train de dire que des gens comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui n'ont pas leurs 500 signatures ne méritent pas de participer à l'élection. Mais mon Dieu, mais c'est elle qui ne mérite pas de participer à l'élection. De toute façon, elle est à quoi ? 3%, elle est en dessous de 5, donc elle ne mérite pas d'être là.
Bon, enfin, pour l'instant, en démocratie, tout le monde mérite de participer à une élection, Jacqueline Mourou. Et ce sont les électeurs qui décident.
Tout à fait.
On va terminer à propos de mépris. Hein. Par exemple, quand France 3 vous consacre un article, hein, je vois sur France 3 l'article, l'hypnothérapeute qui anime également des soirées dansantes à l'accordéon.
Oui.
Voilà, c'est une histoire de dire, elle n'a pas fait d'études, ou je ne sais pas, c'est pas une haute technocrate, Jacqueline Mourou, c'est une forme de mépris. Je ne sais pas s'ils allaient écrire ça de René Monnery, qui était mécanicien automobile. Il était mécanicien automobile et ça a été un des meilleurs ministres de l'économie que la Ve République n'ait jamais eu, René Monnery.
Bah, bien sûr, voilà. Mais c'est le mépris habituel, vous savez. J'en ai tellement pris que aujourd'hui j'ai le cuir bien tanné. Mais est-ce qu'on dit par exemple de Lionel Suarez qui est un fabuleux accordéoniste qu'il ne vaut rien parce qu'il joue de l'accordéon ? Est-ce qu'on dit de Richard Galliano qu'il n'est rien parce qu'il joue de l'accordéon ? Écoutez, moi je vais vous dire, l'accordéon, j'ai commencé à en jouer à 5 ans. Et je joue de l'accordéon depuis l'âge de 5 ans parce que c'est un instrument qu'on porte sur le cœur. Voilà, tout simplement. Bah,
Giscard jouait de l'accordéon, voilà, aussi.
Et bien sûr. Mais bon, après, il faut bien qu'il trouve des formules méprisantes. Bon, vous savez, moi, honnêtement, je ne fais même plus attention à tout ça.
Merci Jacqueline Mourou. Je rappelle que vous étiez à l'origine des Gilets jaunes et vous avez rejoint donc le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes membre du bureau politique, c'est ça, hein,
c'est ça.
De Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Merci Jacqueline Mourou.
Merci, à bientôt, au revoir.